Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Kid.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Heureuse de vous retrouver aujourd'hui et parlons de ce procès qui occupe bien des médias, bien des citoyens, celui de Donald Trump, ce procès qui a lieu à Manhattan et qui l'oppose finalement au procureur de l'État, mais c'est concernant les relations qu'il avait eues et la manière avec laquelle il a essayé de cacher sa relation avec Stormy Daniels. Il est accusé d'avoir falsifié des documents. Là, évidemment, on sait que Stormy Daniels, c'est une ancienne actrice porno avec qui entretenait une relation avec Donald Trump avant qu'il se lance en politique, faut le dire. Mais la question que je me posais, vous rappelez-vous de la saga Monica Lewinsky et Bill Clinton? Puis là, on va me dire, ah, mais il était président, c'est pas la même chose, là, c'était avant même qu'il soit président. Je suis d'accord. Mais c'est pas tant par rapport à Bill Clinton que par rapport à Hillary Clinton. Vous rappelez-vous qu'est-ce qu'on a demandé à Hillary Clinton de se prononcer? Va-t-elle rester avec son mari ou pas? Qu'est-ce qu'elle pense de l'infidélité de son mari? Puis qu'on dit même que ça aurait pu, que ça a probablement contribué à ce que les femmes ne votent pas pour elle lorsqu'elle s'est présentée à la présidentielle. Où est Melania Trump? Où est Melania Trump lorsque son mari est pris dans un procès où il est impliqué avec une ancienne actrice porno? Pourquoi on parle jamais de Melania Trump? Pourquoi Melania Trump, on lui demande jamais qu'est-ce qu'elle pense de l'infidélité de son mari? Elle est absolument absente des médias. On ne sait pas si elle appuie Donald Trump, si elle le soutient. On ne sait pas ce qu'elle pense de cette infidélité qui est maintenant au grand jour. On fait comme si ça n'existait pas. Puis ça démontre à quel point la société américaine, elle a des doubles standards. Parce que ce sont ces mêmes républicains qui reprochaient à Hillary Clinton d'être restée avec Bill Clinton qui, aujourd'hui, ferment les yeux devant l'infidélité qui, autrefois, les dégoûtait et les repoussait. On n'est pas une contradiction près dans la société américaine, mais celle-ci, honnêtement, est assez particulière. Bienvenue à Cube et bienvenue à votre nouvel épisode.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel.
Luc, faisons du chemin sur ce qu'on a discuté hier par rapport au discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, le ton qu'il prend pour mousser l'idée de la souveraineté, le référendum. Et aujourd'hui, puisqu'il a été accusé d'être un radical par Marc Tanguay, M. Saint-Pierre Plamondon persiste et signe. Il rappelle, lui, les exécutions et les déportations de francophones.
Oui. On devait parler de... budget qui va être présenté aujourd'hui. Mais ça, c'est une nouvelle qui est sortie à 13h53, donc il n'y a pas très longtemps. Et je dois dire que j'ai comme sursauté. Parce que je voyais en Saint-Pierre Plamondon quelqu'un qui allait calmer le jeu un peu. Et je le cite, ouvrez les guillemets. L'histoire du Canada est une histoire d'assimilation. Il ne faut pas oublier ce que les francophones ont vécu dans les déportations, les exécutions, l'interdiction d'avoir de l'éducation en français. Ce régime-là a été constant durant toute son histoire et Justin Trudeau n'y fait pas exception. Oh, wow! Wow! Je rappellerai aux gens que la guerre des Balkans, la guerre de l'ex-Yougoslavie, a été lancée par un discours de Milosevic qui disait « C'est le temps qu'on ait notre vengeance parce qu'en 1383, on a été battu par les troupes musulmanes. 1383, nous devons venger l'histoire. Là, ici, ce dont on parle, quand il parle de déportation, j'imagine qu'il parle de la déportation des Acadiens. Il me semble me souvenir que c'est 1755. L'interdiction, les déportations, les exécutions, tiens, parlons des exécutions.
1755, t'as raison.
Les exécutions dont il parle, ça remonte au soulèvement des patriotes, 1837-1838. Et ça a été l'objet d'un film du très objectif Pierre Falardeau. Je suis absolument atterré. Écoute, je vais citer Gabriel Nadeau-Dubois, qui est officiellement un souverainiste. T'as vu le mot que j'ai employé? Souverainiste. C'est-à-dire un séparatiste.
Luc! Je pensais que t'étais assagi.
Non. Critiqué le discours conservateur et catastrophiste du péquiste. Et je le cite. C'est un discours empreint de ressentiment à déplorer le chef parlementaire de Québec solidaire. Je pense même qu'un discours comme celui-là, ça peut éloigner bien des jeunes du projet indépendantiste. Fermez les guillemets, je suis d'accord avec Gabriel Nadeau-Dubois.
Une fois n'est pas coutume?
Mais non, une fois n'est pas coutume. Ben je le respecte, Nadeau-Dubois. Il y a beaucoup de talent et tout.
Mais moi,
cette histoire-là, ce que je viens de lire là, est-ce qu'on est en train de déraper puis de devenir fou?
Ben, moi, ce que je trouve particulier aussi, une autre phrase, là, Luc, c'est celle où il dit, à l'arrivée de l'Assemblée nationale, dans toutes les provinces canadiennes, les francophones ont été assimilés. C'est ultimement ce qu'attend le Québec à inciter le chef du PQ. C'est intentionnel et oui. Justin Trudeau continue l'œuvre de son père, Pierre-Éliott Trudeau. C'est limpide.
C'est complètement cinglé, cette affaire. Je veux dire, c'est une interprétation de l'histoire qui est tellement tordue. Il y a juste une façon de décrire ça, c'est du nationalisme. C'est ça, du nationalisme. Tu fais dire n'importe quoi à des faits qui semblent aller dans ton sens. Waouh, je veux dire, c'est incroyable. Je suis estomaqué, comprends-tu? Je sais pas, moi, les deux plus grands alliés à l'heure actuelle de l'Europe, les constructeurs de l'Europe, c'est la France et l'Allemagne. Est-ce que ça veut dire qu'on a tourné la page sur 1870, hein? La victoire
ben
des
oui.
Allemands. On a tourné la page sur 1914, puis on a 14-18, puis on a tourné la page sur 39-45, puis on a travaillé ensemble à bâtir quelque chose de nouveau qui allait ramener la prospérité en Europe. Et tu sais quoi? Cela a fonctionné. Okay? Ça ne veut pas dire que tout fonctionne maintenant à perfection. Le temps fait son œuvre, mais... lire des propos comme ceux-là, écoute, on rit pas, là. On parle d'exécution.
Et de déportation.
Déportation en 1755. Ah! Écoute, on devrait peut-être lancer une guerre contre l'Angleterre, parce qu'en 1759, ils ont gagné la bataille des plaines d'Abraham.
Mais on peut-tu demander un recomptage?
On pourrait demander...
Moi, je réclame un recomptage pour la bataille des plaines.
Mais
cette bataille-là a été volée, Luc Lavoie.
J'aimerais... Mais j'aimerais que les gens relisent ça, qu'ils y pensent un instant, là. On veut faire l'indépendance parce qu'il faut se venger de 1755, la déportation des Acadiens. Wow! Puis ensuite, l'exécution de... Comment s'appelait-il déjà? Là? Il y a un nom de rue à Montréal.
Lui. Louis Riel?
Hein? Non, pas Louis Riel, ça c'est autre chose. Chevalier Delorimier?
Oui.
Donc c'est vrai qu'il a été exécuté après un soulèvement contre les occupants qui étaient l'armée anglaise.
En quoi c'est pertinent en 2024?
Mais en quoi ça a à voir avec ce qu'on vit maintenant? En quoi est-ce que cela a à voir? Il parle évidemment de la loi numéro 10, je pense, en Ontario, qui interdisait l'enseignement du français. Bon, elle a pas duré, la loi en question. Elle n'est plus en place depuis, ma foi, un siècle. Ça veut pas dire que ça n'a pas été un combat glorieux, mais c'est ça, la réalité.
Mais on dirait qu'il veut se battre contre Durham.
Ouais, c'est ça, Lord Durham, là, tu sais, ça, c'est...
C'est le rapport Durham que tu décris de tous aujourd'hui, là.
C'est ce qui explique notre humiliation permanente. Et au moment du rapport Durham, faut savoir que le réseau téléphonique n'existait pas, alors personne n'a pu penser au 1-800 humiliation. Parce que...
Toute la voix.
Mais écoute, c'est vrai, non, mais c'est à la limite dangereux. Et ça sème une espèce de je sais pas comment dire, d'odeur d'extrémisme.
Mais c'est là où j'allais te poser la question. T'es-tu d'accord avec Marc Tanguay quand tu dis qu'il est radical?
Mais mon Dieu Seigneur, le mot est faible. C'est un euphémisme dans ce cas-là. C'est du radical, c'est de l'extrémisme. Dire aux Québécois, il faut se séparer, parce que vous savez, Justin Trudeau continue l'œuvre de son père, qui était elle-même une continuité ou une continuation de ce qui s'est passé à l'époque de l'occupation britannique. Wow! Écoute, je suis pas là pour défendre Pierre-Éliott Trudeau, mais il a fait adopter la loi sur les langues officielles.
Il a fait aussi, envoyé les troupes canadiennes dans les rues montréalaises, là.
En 1970.
Exact.
Ouais, il y avait eu un enlèvement. Écoute, il est extrêmement critiquable.
Exact.
Mais ceci étant dit,
mais pourquoi lier
son œuvre n'était pas de faire disparaître les francophones. Il n'y a rien de ça qui est vrai.
Mais
là,
c'est un francophone.
Ben
c'est
oui,
un Québécois.
Oui, oui. Puis son fils Justin, on ne peut pas dire que Justin Trudeau continue cette œuvre. Je sais pas comment il l'appelle, là. Il doit être diabolique ou je sais pas trop quoi. C'est pour nous faire disparaître. Êtes-vous malade? Êtes-vous vraiment malade? Est-ce que peut-être que les urgences fonctionnent mal, donc les gens vont pas se faire soigner? Je dis, comment tu peux penser comme ça? Comment tu peux dire à des gens, faites-moi confiance, je suis un élu qui représente vos intérêts à la législature, et puis je vous le dis, là, faut faire l'indépendance à cause des exécutions puis des déportations puis de... Moi, franchement, j'ai pas entendu ça dans la bouche de Jacques Parizeau, de René Lévesque, de Lucien Bouchard, d'aucun des leaders.
De Pauline Marois, de Bernard Landry.
Oui. Même si Landry, parfois, a été loin, il n'a jamais été aussi loin que ça. Tu sais, il avait sorti son histoire de chiffon rouge dans le temps, là, pour ridiculiser un peu le drapeau du pays. Mais à côté de déclarations comme celle-là, je suis bouche bée.
Mais si on revient à l'histoire là, de tous les pays du monde, il y a eu des déportations, il y a eu des exécutions, il y a eu des pages noires dans l'histoire de bien des pays.
Dans la relation franco-allemande, je le répète, ce sont ils fonctionnent main dans la main depuis 1947-48, quand Konrad Adenauer est arrivé au pouvoir, avec, pas François Mitterrand, que dis-je, De Gaulle par la suite. Mais on aurait pu dire, mais... C'est insupportable. La victoire des Allemands en 1870, à la veille de la Commune de Paris, qui avait en fait provoqué la Commune de Paris, 1914, et je ne sais qu'on pourrait s'amuser à jouer ce jeu-là éternellement, ce qui ferait en sorte que tous les peuples seraient en guerre avec un autre peuple en quelque part. Il faut se venger. Se venger de quelque chose qui est arrivé il y a deux siècles, un siècle et demi. Je trouve ça déplorable, malade, et surtout, ça illustre bien qu'est-ce qui inspire ce mouvement-là. On regarde aller Saint-Pierre Plamondon, depuis qu'il est arrivé à l'Assemblée nationale, et on est tous d'avis qu'il a amené avec lui une civilité, un ton...
Oui,
qui a fait
c'est ça qui me surprend, moi, honnêtement. C'est plus la question du ton.
Mais des déclarations comme ça, j'aurais jamais pensé que ça aurait pu venir d'un gars comme lui.
Moi non plus. Honnêtement,
c'est là qu'ils sont rendus dans leur histoire de séparation.
C'est inquiétant.
C'est d'une part inquiétant, mais d'autre part, dites-le que c'est ça dont il s'agit. Racontez-nous pas d'histoire. Votre mouvement vise à laver toutes les peines subies par ce pauvre peuple de francophones. Merci beaucoup, j'embarque pas dans ça. Vraiment, là, je suis pas capable.
Luc Lavoie, merci beaucoup.
Un plaisir.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Êtes-vous comme moi, vous prévoyez aller en Espagne cet été? C'est ce que j'ai prévu de faire avec ma petite famille. Et là, ce matin, je lis que des îles Baléares aux Canaries, en passant par Barcelone et Malaga, il y a des mouvements hostiles au surtourisme qui se multiplient en Espagne, qui est devenue la deuxième destination mondiale. Et ça pousse les autorités à agir pour essayer de concilier les habitants sur place, les touristes, puis le secteur économique, évidemment, qui vient avec. pourquoi ces destinations sont encombrées et quoi faire, quoi visiter de l'Espagne sans nécessairement taper ses nerfs des habitants. On en parle avec Alexis Roy, globe-trotteur et fondateur des Vols d'Alexis. Bonjour, Monsieur Roy.
Bonjour, content d'être là.
Contente aussi de vous entendre parce que moi, j'ai lu ça ce matin, là, puis moi, mes billets d'avion pour l'Espagne sont achetés depuis un petit bout. Et je me dis, là, je m'en vais-tu me sentir de trop en Espagne?
Moi, je penserais pas. Je pense que c'est un peu du sensationnaliste aussi, les grandes lignes et tout ça, quand on parle un peu de ce surtourisme-là. Et je dirais que c'est comme un peu un mal pour un bien parce que on se rappelle qu'en sortant de la pandémie, on avait peur de l'inverse, finalement. On avait peur que le tourisme reprenne jamais puis que le monde ne veuille plus sortir de chez eux. Donc, on a vécu un peu les deux phases. Et finalement, là, ce qu'on voit, c'est l'inverse. Donc, il y a comme une bonne nouvelle un petit peu dans tout ça pour dire que le monde a le goût encore de voyager malgré tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Moi, je vois ça comme un positif. Après ça, ce positif a quelques aspects négatifs qu'on peut voir ce qui se passe actuellement en Espagne. Mais moi, je pense que ce qui va arriver, un peu comme ce qu'on avait vu ici au Québec durant la pandémie.
La Gaspésie.
Exact, la Gaspésie. Puis, on voit que ça a pris une adaptation, ça a pris un peu de temps, mais éventuellement, les gouvernements là-bas, les touristes aussi ont compris la situation puis ont un peu changé leur façon et ça s'est stabilisé par la suite. Moi, je pense que c'est un peu ce qu'on va voir en Espagne. Et ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que c'est des choses qui sont très ciblées sur les nouveaux développements touristiques. Donc, vraiment plus pour les développeurs là-bas qui essaient peut-être de faire des projets un peu de trop grosse envergure vu la situation. Mais je pense que pour les touristes ou, par exemple, pour toi qui veux voyager cet été-là, il n'y a aucun risque à avoir. Il va y avoir beaucoup d'endroits à aller, beaucoup d'autres choses à faire aussi. Même à les endroits qui parlent, je pense que ça va être très sécuritaire.
Mais parlons, Alexis, de cette nouvelle mode. Là, on dirait là, qu'il y a des vagues, là, des modes de voyage. Puis là, il y a quelques années, là, on dirait que tout le monde a acheté sur Groupon un voyage au Portugal. Ensuite, c'était la Grèce. Tu sais, on dirait qu'il y a des étés là, où tout le monde va au même endroit. Puis moi, je reçois pas les mémos. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, il y a des modes comme ça? Mais on peut-tu m'inclure dans la liste d'envoi?
Écoute, premièrement, faut que tu viennes t'abonner au Vol d'Alexis. Comme ça, tu vas pouvoir être au courant de ces nouvelles tendances-là. De tout ce qui se passe. Je dirais qu'il y a des destinations qui, autant depuis les 5 dernières années, restent constamment très, très populaires. Donc, te donner un exemple, la Floride, qui reste pour les Québécois, pour nos snowbirds, on les aime, mais c'est comme un stéréotype, mais c'est vrai. Te donner un exemple, nous, quand on envoie des alertes pour des vols d'avions pas chers, ça donne toujours, toujours, toujours que les alertes vers la Floride, c'est eux qui ont le plus de clics, le plus d'engouement, le plus de réponses, le plus de réservations.
Aussi plus proche, puis moins cher.
Aussi plus proche, plus chaud, moins cher, exactement. Mais il y a quand même des nouvelles destinations. Puis je peux t'en parler un petit peu aussi aujourd'hui de qu'est-ce qui est nouveau un peu dans le profil de voyage des Québécois. Donc moi, je vois beaucoup de personnes qui veulent se déplacer ces derniers temps vers tout ce qui est dans les Caraïbes, principalement la Guadeloupe, la Martinique, Puerto Rico aussi, qui est des destinations très populaires que moi, avant, on n'avait pas beaucoup de demandes de voyageurs pour ce coin-là. Je sais pas si tu as déjà voyagé en Guadeloupe ou en Martinique. Mais le fait que ça soit francophone, ça permet aux Québécois d'avoir une accessibilité très intéressante. Et je te dirais qu'il y a un regain à la fin de la pandémie, quand on avait relancé le voyage. Le monde, peut-être qu'il avait beaucoup voyagé au Québec, fait qu'on a eu, durant la pandémie, donc on a eu une baisse. Mais là, on voit une rehausse. J'ai eu beaucoup de demandes dans les derniers temps pour les îles de la Madeleine cet été. Moi, je vais même y aller en août. Mais c'est fou, les prix sont super intéressants. Les Québécois veulent retourner là-bas. Là, on espère que ça fera pas exactement ce qu'on voit un peu en Espagne actuellement, parce que ça a été aussi dans les discussions du fait que beaucoup de personnes s'achetaient des chalets de location, par exemple, aux îles de la Madeleine, ce qui faisait que les locaux et les familles là-bas avaient de la
misère. Mais là, il y a une nouvelle taxe là, qui rentre en ligne de compte, là, qui rentre en vigueur pour les touristes qui veulent aller aux îles de la Madeleine. Ça, c'est pour conscientiser les touristes que ça vient avec des coûts recevoir autant de monde.
Exact. En fait, exactement ce qu'on parlait au début de notre conversation, qu'on voit que le gouvernement, que le monde là-bas s'adapte à ces nouvelles réalités. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que tout le monde apprend par rapport à ça. Sinon, je te dirais qu'aussi au Portugal, on a beaucoup de demandes récemment pour les Açores. Donc, c'est une petite archipel d'îles à l'ouest, qui appelle un peu l'Hawaï de l'Europe. Encore là, le monde sont comme ouverts à des nouvelles destinations, à vouloir essayer des choses différentes. Mais ça, c'est un autre endroit qu'avant la pandémie, j'avais moins de demandes. Et là, on voit un petit peu plus de regain pour ça.
Il y a évidemment des destinations qui sont comme rentrées dans les habitudes des Québécois, que ça se passe soit la France, le Portugal, particulièrement le sud du Portugal, l'Algarve est quelque chose qui est très prisé. Mais l'Espagne, là, il n'y a pas juste le sud de l'Espagne, il n'y a pas juste Malaga, il n'y a pas juste Barcelone ou Madrid. Il y a d'autres endroits qu'on peut aller découvrir en Espagne qui peuvent être intéressants. En as-tu, toi, des préférés?
Moi, je te dirais que je suis un très grand fan de San Sebastián, qui a aussi connu un peu les mêmes problèmes qu'on voit actuellement, ce qui se passe, mais toutes ces petites villes côtières pour le surf et tout ça, quand on reste un peu plus aux extrémités près de l'eau, moi, c'est souvent là que je recommande de Biarritz aussi en France, un petit peu plus haut, pas trop loin de là, que j'adore comme endroit. Mais je dirais que le Portugal reste, moi, dans mon cœur. Ça serait une recommandation si, par exemple, quelqu'un n'avait pas réservé son voyage en Espagne actuellement puis qui était peut-être un petit peu stressé avec ce qu'on voit. Je dirais, aller faire un tour au Portugal, puis ça devrait peut-être un petit peu mieux.
J'ai fait ça l'été dernier. Je suis allée au Portugal et on a traversé à Séville, en Espagne. Puis là, on découvre aussi l'Espagne en même temps. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe avec la Grèce? Est-ce que la Grèce est déjà rendue démodée ou est-ce que la Grèce est encore à l'ordre du jour chez les Québécois?
En tout cas, dans mon horaire à moi, je m'en vais dans 2 semaines en Grèce, donc c'est encore dans l'horaire. J'ai beaucoup d'amis qui vont là cet été.
T'es vintage, Alexis, t'es vintage.
Écoute, qu'est-ce que je te dis? Mais ce que j'ai entendu dire de beaucoup de ce qui s'est passé à la Grèce les dernières années, c'est que durant les mois d'été, dont parlons en juin, juillet, où c'est très, très chaud au point que ça devient désagréable, donc les 2 mois extrêmes, donc mai, juin et peut-être septembre, octobre sont de plus en plus prisés. On essaie de pas aller en haute saison. Mais j'entends encore beaucoup de demandes de ces destinations.
Il y a ceux aussi qui veulent sortir des sentiers battus puis des destinations un peu communes, là, tu sais, Grèce, Espagne, Portugal, France. De plus en plus de nouvelles destinations. On parle de l'Albanie, on parle de la Croatie. Qu'est-ce qui fait en sorte que de plus en plus de monde veulent aller dans ces destinations que l'on connaît moins, mais qui visiblement attirent beaucoup de touristes?
Je pense que aussi avec l'internet et la quantité d'informations qu'il y a, ça fait que le monde va un peu toujours aux mêmes endroits. C'est un peu et ce qui devenait les standards devient un peu plus les standards. C'est un peu comme j'ai souvent la métaphore. Moi, j'ai des amis beaucoup qui font de la course. Fut un temps où faire un demi-marathon c'était exceptionnel. Après ça, c'était le marathon. Et maintenant, c'est même plus impressionnant de faire un marathon. Il faut que tu fasses un Ironman et après ça, tu fais un ultra trail de 165 km en montagne. Et même là, le monde dit ah ben oui, c'est ça que. Donc, je pense que c'est juste.
Mais il y a un dénominateur habitudes... commun dans tout ce que tu viens de dire. Je suis dans aucun.
Ben, tu sais, il y a l'exposition aussi avec les médias sociaux à tout ce que le monde font, qu'on dirait que les standards deviennent de plus en plus élevés. Tu sais, en comparable avec d'autres destinations pour autres ceux que tu as mentionnés, tout ce qui est, par exemple, ton Nicaragua, l'Amérique centrale, que moi je reviens de là le mois dernier, même chose, qui est des destinations, ou la Colombie, qui était souvent vue pour des destinations peut-être un peu moins sécuritaires, mais qui deviennent de plus en plus accessibles, abordables et sécuritaires. On a ce ringuet-là, puis c'est comme les modes, j'imagine que peut-être que là, ça va faire ça, puis éventuellement, ça va revenir, puis ça. On va revenir finalement que Paris, c'est peut-être plus à la mode et ça revient à la mode. Hein? C'est l'être humain, des fois, hein? Il est difficile à suivre.
J'ai hâte de revoir nos touristes dans les plages de Gaspésie, puis s'ils vont avoir appris de leurs erreurs de la fois passée. Alexis Roy, globe-trotteur, fondateur des vols d'Alexis et futur touriste dans les plages de la Grèce. Bon voyage! Tiens-nous au courant!
Merci beaucoup! Bon voyage! Bye-bye!
Pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel Fadel. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN. À LCN.
14h30, saluons notre collègue Yasmine Abdel Fadel. Bon après-midi, Yasmine.
Bon après-midi, Julie.
Alors, on va se rendre immédiatement à la période de questions à l'Assemblée nationale où, très rarement, on parle de souliers. Louboutin.
À quel moment est-ce qu'on a...
Bon, je suis debout. Article 32, article 37. Monsieur le leader du gouvernement, je suis debout. Article 32, article 37. Vous demeurez assis, vous gardez le... silence. Brièvement, vous vouliez vous exprimer, puis on va poursuivre, ce sera tout. brièvement.
Brièvement, Madame la Présidente, le leader du gouvernement fait l'interprétation de ce qu'il veut. La question...
OK, je vais trancher. Bon, Monsieur le leader du gouvernement, je vais maintenant trancher. Nous allons poursuivre la critique du comportement de ses adversaires permises. Demeurons respectueuses et respectueux. Cela termine ma réponse. On écoute la question.
Et deux paires pour un nouveau logement qui sort de terre aujourd'hui.
Non. Monsieur le leader du gouvernement, j'ai tranché. On peut ne pas aimer la critique. Elle est permise à ce stade-ci. Nous allons poursuivre, Monsieur le leader, nous allons poursuivre la période des questions. C'est une critique. Alors, je répète, j'ai tranché. Il ne s'agit pas ici d'un cas de l'article 35. Messieurs, dames, les ministres, les députés, les chefs, je vous vois tous. On peut ne pas aimer. Je vous demande de continuer dans tout respect. Il vous reste 19. Attention, là, je parle. Il vous reste 19 secondes.
Merci, Madame la Présidente. Moi, j'allais justement ajouter que j'en ai rien à cirer de la marque de souliers de qui que ce soit. Ce qui est important, ce sont les résultats. Et malheureusement, avec la CAQ, on n'en a pas en habitation. Ailleurs au pays, on a agi en retirant la taxe sur la vente, sur le locatif, par exemple. Mais ici, on pratique l'immobilisme.
Réponse de la ministre responsable de l'habitation qui va répondre.
Oui, tout à fait. Merci, Madame la Présidente. Alors, je pense que la députée de l'opposition a probablement manqué ce qui s'est réellement passé vendredi. On a annoncé 763 logements à Montréal. 763 logements sociaux et abordables qui s'ajoutaient aux 285 logements annoncés en décembre pour un total de 1043 logements seulement dans la région de Montréal. Et ça, ça fait partie des 8000 unités annoncées au mois de novembre et 2574 unités déjà distribuées sur l'ensemble du territoire québécois. Moi, je pense que les Québécois, là, c'est de ça qu'ils ont le goût d'entendre parler. Des projets qui sortent de terre, des gouvernements qui ne se complaisent pas dans l'annonce d'unités, mais qui suivent leur dossier, qui s'assurent que les projets sortent de terre. Et puis, c'est ce qu'on s'assure. On a ramassé l'arriérage libéral, là. On s'assure de le faire sortir de terre. Et par ailleurs, depuis 2018, bien, on a plus de 23 000 unités qui sont à différents stades de livraison. Ça, Madame la Présidente, ce sont les vrais enjeux qui intéressent les Québécois.
Vous connaissez la règle,
peut-être. 14h34, retournons à Yasmine. Alors, Yasmine, pour mettre en contexte, c'est lors d'une annonce sur les logements sociaux la semaine dernière, la ministre de l'Habitation France, Hélène Duranceau, chaussait des souliers Louboutin, de la marque Louboutin, avec la fameuse semelle rouge. Est-ce qu'elle peut chausser ce type de souliers sans gêne et sans scrupule, ou ça fait d'elle une personne qui est déconnectée, selon toi?
Ben voyons, donc il faut commencer à être gêné puis avoir du scrupule pour la marque de souliers qu'on doit porter ou qu'une ministre doit porter. La ministre, elle porte des Christian Louboutin, elle aurait pu porter une autre marque luxueuse, puis on l'aurait pas su, puis elle fait pas ça pour soit provoquer ou pour insulter le monde, elle fait ça parce qu'elle a envie de porter des souliers qu'elle trouve de son goût. Est-ce qu'on reproche aux différents ministres qui portent potentiellement un costume Giorgio Armani à 5000 $ de porter un costume à 5000 $ ou des cravates Louis Vuitton, Burberry, Hermès qui coûtent plusieurs centaines de dollars? Est-ce qu'on le reproche aux hommes de porter ces cravates-là? Est-ce qu'on reproche aux hommes politiciens qui ont une Rolex autour du poignet qui coûte probablement la mise de fonds pour un appartement? Non, on le reproche pas. Monsieur Jack Metzing portait une Rolex. Est-ce qu'on lui reproche de porter une Rolex? Puis à un certain moment, là, il va falloir se rappeler que les politiciens, c'est des êtres humains. Ils n'ont pas fait vœu de pauvreté lorsqu'ils ont prêté serment à leur arrivée au Conseil des ministres ou à titre de député. Puis, il y a Madame France-Hélène Duranceau, là, elle n'a pas levé son pied puis regardez donc ma semelle rouge, porte des loup-boutins. Elle n'a pas dit dans son discours, elle faisait juste porter ses souliers, comme on porte tous des souliers, qu'ils soient chers ou pas chers. Ce sont les caméras, les médias, les personnes qui l'ont vu puis qui ont vu la semelle pour se dire « Ah ben oui, elle porte des loup-boutins. » Et alors, on peut-tu la laisser tranquille? Madame Duranceau, là, elle a pu manquer de jugement à plusieurs reprises dans ses déclarations. Mais ce n'est pas ses souliers qui témoignent de sa déconnexion ou de son manque de nuances ou de jugement. Clairement pas. Concentrons-nous un peu sur ce que le monde a entre les deux oreilles, là, dans la tête, dans leurs actions, dans ce qu'ils disent. Puis abandonner un petit peu l'idée de toujours critiquer les femmes sur ce qu'elles portent, que ce soit aux pieds, les foulards, les perles, les vestons.
Comme on l'avait fait
vestons.
Avec Pauline Marois. Ouais.
On l'a fait avec Pauline Marois et on s'en rappelle.
Jour de budget fédéral aujourd'hui. Regardons ensemble une des dernières stories qu'a publiée sur Instagram le premier ministre Justin Trudeau. Alors, Yasmine, c'est une story qu'il a publiée hier. Ce que ça dit, grosso modo, donnons la chance, une chance équitable aux travailleurs, aux jeunes générations, aux aînés, aux familles. Est-ce que la fin, selon toi, justifie les moyens?
Ben, c'est du budget du dernier recours, là. C'est un cri du cœur que lancera Chrystia Freeland tout à l'heure et qui portera finalement la voix de Justin Trudeau. Aujourd'hui, le gouvernement joue le tout pour le tout. Il espère qu'avec les différentes dépenses, de pouvoir rejoindre un maximum d'électeurs et fait le pari que les électeurs porteront peu attention au déficit qui probablement sera très important parce qu'ils en auront pour leur argent. Alors, la question est de savoir, est-ce que ce déficit-là va nous handicaper au courant des prochaines années? Va-t-on réussir à le contrôler? Est-ce qu'on est confronté devant un risque de décote? Toutes des questions auxquelles on va pouvoir répondre à partir de 16 heures. Mais Justin Trudeau fait un pari politique avec ses dépenses de plusieurs milliards de dollars. Est-ce que on va voir finalement les sondages changer en sa faveur? Est-ce qu'il aurait pu acheter à coups de milliards des intentions de vote? On va le savoir au prochain sondage.
Bonne question. Merci, Yasmine. Bonne après.
Yasmine Abdel Fadel.
2,750 milliards de dollars, là, près de 3 milliards de dollars pour avoir un nouveau pont entre Québec et l'île d'Orléans. C'est l'annonce qu'a fait la ministre Geneviève Guilbeault aujourd'hui, ministre des Transports, avec son collègue Jonathan Julien, ministre responsable de la région de Québec. Est-ce qu'ils avaient vraiment le choix? C'est un projet qui traîne depuis plusieurs années. On en parle avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique, Journal de Montréal, Journal de Québec, qui est directrice adjointe de l'information, Journal de Québec. Bonjour Karine.
Bonjour Yasmine.
Enfin un pont, mais c'est pas pour faire le troisième lien, pas pour le tramway, pour l'île d'Orléans.
Non, puis effectivement, on peut se demander là, à la lumière de l'explosion des coûts dans ce projet-là aussi, comment on va faire là, pour réaliser, entre autres, le troisième lien. Mais tu sais, je me suis amusée à écouter les arguments de la ministre Guilbeault, du ministre Julien ce matin, là, qui expliquait pourquoi il y avait une explosion des coûts. Puis je me disais que dans le fond, on aurait pu faire exactement la même chose avec le projet de tramway de réseau structurant de Québec si on avait eu la volonté politique de le faire. Et au lieu de ça, on a parlé d'acceptabilité sociale, sauf que est-ce qu'on se demande si c'est acceptable socialement de payer 2,7 milliards pour un pont qui relie l'île d'Orléans à Québec? Ben non, on se dit il faut le faire parce que c'est important, parce qu'il y a du tourisme. Alors, dans le fond, on aurait pu faire exactement la même chose avec le réseau structurant, expliquer aux citoyens que oui, il y avait une explosion des coûts, mais que ça touche l'ensemble des projets au pays et dans le monde. Et voilà pourquoi on décide d'aller de l'avant tout de même, parce que c'est important, parce que Québec a un retard au niveau du transport collectif et que c'est important d'aller de l'avant. Alors, je trouvais ça assez fascinant aussi, Yasmine, d'entendre la ministre Guilbeault, qui est au pouvoir depuis 2018, encore parler de délais attribuables au gouvernement précédent.
Ouais, ça, c'était particulier. Libéraux.
Non, mais quand même, là, depuis que la CAQ est arrivée au pouvoir en 2018, là, on a lié le projet de pont de l'île d'Orléans au troisième lien, hein, si on se rappelle bien. On voulait à ce moment-là faire un troisième lien dans l'Est et on avait décidé dans le fond, de jumeler les deux bureaux de projet et ça avait entraîné des délais. Et là, par la suite, je rappelle ce qui est arrivé, on a abandonné l'idée d'un troisième lien à l'Est. Hein. Il y a eu tellement de revirements dans ce dossier-là. Et là, ce que ça a fait, ben, ça a entraîné de nouveaux délais pour le pont de l'île d'Orléans. Alors, c'est pas vrai là, qu'on peut mettre tout ça sur le dos des libéraux, les délais. Au contraire, quand ils étaient au pouvoir la dernière fois, les libéraux, là, le projet était enligné, on savait pas mal où on s'en allait. Et puis, ce sont les caquistes là, qui ont entraîné de nouveaux délais. Et que là, ben évidemment, le contexte a changé et on parle d'explosion des coûts. Et ce que je trouve intéressant aussi par ailleurs, c'est d'entendre le ministre Julien dire qu'il travaille sur la révision du processus pour une meilleure gestion des projets d'infrastructure. Mais je me disais, si on s'était réveillé avant, là, probablement, parce que là, ça fait longtemps qu'on est là, ça fait longtemps aussi qu'on peut anticiper qu'il va y avoir un contexte. Moi, là, j'ai entendu Régis Labeaume le dire 10 000 fois au gouvernement quand il était question du tramway, qu'il y avait des problèmes, que le gouvernement réclamait des changements, etc. Et puis, on n'a rien fait, alors que là, on se penche là-dessus. Sauf qu'il y a des projets qui en paient le prix puis qui verront probablement pas le jour à cause de ça.
Mais Karine, est-ce que tu penses que cette décision qui a été annoncée aujourd'hui, puis on apprenait que la signature avec le consortium s'est faite le 3 avril dernier, est-ce que tu penses que là, le gouvernement s'est dit « Hey, ça fait 6 ans qu'on est au pouvoir, on n'a pas fait grand-chose en matière d'infrastructure, particulièrement pour la grande région de Québec, alors qu'il y avait plusieurs projets sur la table, le tramway, le troisième lien. Rien de tout ça n'a vu le jour. On n'a pas le choix que de faire le pont vers l'île d'Orléans, parce qu'au moins, on pourrait dire qu'on a fait une infrastructure. Ça va être la moins coûteuse, mais on ne pourra pas nous accuser de n'avoir rien fait. »
Ben, il y a deux affaires là-dedans. Il n'y avait pas le choix de l'annoncer, parce que le pont est arrivé en fin de vie. Puis là, on retarde.
Depuis
là,
longtemps.
Le pont, il est vraiment arrivé en fin de vie. Puis on dit qu'il est sécuritaire, mais la sécurité, là, elle arrive à la toute fin. D'ailleurs, ils ne pourront pas l'utiliser pour faire le transport des marchandises durant les travaux, là, pour s'assurer qu'on le maintienne pour le temps de la construction du nouveau pont. Alors, ça en dit long quand même là, sur le fait qu'il n'est plus tellement sécuritaire, ce pont-là. D'ailleurs, il est souvent fermé parce qu'il y a des problèmes et tout ça. Donc, les joints
de dilatation, notamment, il y avait des gros problèmes là-dedans.
Oui, sa fin de vie utile est arrivée à terme. Ça, on le sait, là. Puis, il y a aussi qu'évidemment, si on leur demande leur bilan présentement des réalisations dans la région de Québec, ils n'ont pas grand-chose à nommer, là. Ils ont vraiment peu de choses à nommer. Alors, ils étaient contents là, de dire que bon, on arrivait avec un beau projet, que c'était dans un beau projet. Mais moi, c'est ça, encore une fois, ce qui me fait rire, c'est que là, on arrive avec un bien beau projet, mais on a tellement niaisé qu'il va coûter vraiment plus cher. Alors que moi, je remets pas en question le fait qu'il faut le faire. C'est sûr qu'il faut le faire. On pouvait pas passer à côté, mais ce sont les délais qu'on a engendrés qui font en sorte qu'on se retrouve avec une facture à cette hauteur-là. Et ça, elle leur est attribuable là, en bonne partie parce qu'ils sont là quand même depuis plusieurs années. Puis voilà, là, c'est si on compare à tous les projets qui sont sur pause présentement ou qui sont sur le point de s'écrouler, on se dit, ben finalement, tout est une question de volonté politique. Là, puis il y a bien des dossiers, dont le réseau structurant de Québec, qui aurait pas pu se passer, qui aurait dû se passer bien autrement. Là.
Il y a une règle qui ne mange jamais. Plus on attend, plus ça va coûter cher. Parce que l'inflation, la force des choses, plus on attend, plus on repousse à demain, plus la facture de construction d'infrastructures est plus salée et plus difficile à digérer. Karine
oui,
Gagnon,
on dit que tout ce qui traîne se salit, alors ça ressemble à ça.
Ça s'est pas mal sali et on l'a devant la face, 2,750 milliards de dollars pour un pont pour aller à l'île d'Orléans. Ça nous apprendra. Et j'ai pas l'impression qu'on va apprendre de cette erreur-là. Karine Gagnon, chroniqueuse politique, Journal de Montréal, Journal de Québec, merci beaucoup. À bientôt.
Merci.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
Ça brasse à l'hôtel de ville de Sherbrooke. Il y a plusieurs élus qui déplorent un climat toxique qui est entretenu de manière volontaire par la mairesse de la ville, Évelyne Beaudin. La situation s'est encore détériorée et envenimée dans les derniers temps avec une loi, en fait un règlement qui vise à taxer les propriétaires de piscines. On a avec nous Madame Danielle Berthol, qui est encore conseillère du district de Delarue et qui était jusqu'à récemment présidente du conseil municipal. Madame Berthol, bonjour.
Bonjour, Madame Yasmine. Vous permettez que je vous appelle par votre prénom?
Bien sûr, allez-y.
Madame Yasmine, allez-y.
Vous avez perdu récemment votre titre de présidente du conseil municipal parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce règlement sur les piscines. Expliquez-nous là comment ça s'est arrivé tout ça. Faites-nous une chronologie rapide des événements.
Oui, je vais vous faire une chronologie rapide pour que vous compreniez bien la situation à Sherbrooke. C'est-à-dire que j'étais membre du comité exécutif et présidente du conseil municipal de la ville de Sherbrooke depuis le début de ce mandat, donc depuis 2021. Et évidemment que on prend des décisions au comité exécutif que l'on présente dans le cadre d'une adoption budgétaire et la taxe piscine était présentée dans le cadre de cette étude budgétaire. Et évidemment que quand le dossier est traversé, bon, j'étais sensible, j'étais d'accord à dire oui, on est dû pour une taxe piscine, sauf que nous n'avions pas les modalités d'application de cette taxe-là. Alors, quand on l'a présentée plus tard, au retour des fêtes, à la population, ben évidemment que ton rôle de conseillère, c'est d'être à l'écoute de ta population et les gens ben étaient pas contents parce qu'ils trouvaient que c'était pas équitable et tout ça. Alors, j'étais comme prise entre l'arbre et l'écorce, à savoir, bon, est-ce que je garde ma position versus le comité exécutif, où ben, je vais du côté de mes citoyens et j'avais annoncé dans mon statutaire hebdomadaire avec Mme Beaudin que j'étais pour voter contre la loi, contre la taxe piscine parce que je trouvais justement que c'était pas équitable puis qu'on n'avait pas eu les modalités puis on savait pas trop où on s'en allait en son absence avant les fêtes lorsqu'elle a pris son congé de maladie. Alors arrive évidemment que bon dans le statutaire tout va bien, elle me rappelle en fin de journée pour me dire là va falloir qu'on se parle, il faut se parler concernant la taxe piscine. Oui, OK. Pourquoi? Parce que quand on est au comité exécutif, faut être solidaire. Donc, si t'es pas solidaire, mais il y aura des conséquences. Ben, j'ai dit, pardon? Des conséquences? Ben, il y aura des conséquences. Et la conversation s'est arrêtée là. Donc, si j'ai mal compris ce qu'elle m'a dit, on s'est vu le mardi, le lendemain, donc elle aurait pu prendre la peine de me dire, Madame Berthold, je pense qu'on s'est pas bien compris. Est-ce qu'on peut s'expliquer? Bon, voici, quand je parlais de conséquences, je parlais plus au niveau administratif et tout ça, et elle ne l'a pas fait. Donc, comme je suis une femme de conviction, comme j'ai mes parents m'ont inculqué comment vivre, je sais où est-ce que je m'en vais, j'ai des convictions et tout, alors moi, j'ai dit, non, c'est pas vrai que je vais me faire menacer. Et donc, j'ai décidé, malgré tout, le soir du conseil, d'aller, parce que quand on prend position, il faut s'assumer.
Ouais.
Donc, j'avais position dans le dossier de la taxe et j'ai finalement voté pour. Donc, la taxe est passée parce que j'ai voté pour. Mais à ce moment-là, j'ai dit non, moi, je peux pas continuer à être muselée comme ça. Donc, je vais offrir ma démission du comité exécutif. Alors, c'est ce que j'ai fait le même soir. Sauf que, évidemment, dans son livre à elle et dans le mien aussi, parce que c'est moi qui l'avais convaincue en 2021, que tu ne pouvais pas être présidente du conseil si tu faisais pas partie du comité exécutif, alors que parmi les 6 plus grandes villes du Québec, à part Québec, tous les présidents et présidentes de conseil municipal ne siègent pas au comité
exécutif. Non, c'est ça.
Donc, moi, je me disais, je vais continuer à travailler pareil, puis je vais faire avancer la ville, puis je vais travailler en équipe parce que je suis une femme d'équipe, puis elle a décidé que non, qu'elle me retirait la présidence du conseil.
Mais c'est quoi la personnalité qui est reprochée à madame la mairesse de Sherbrooke, Evelyne Beaudin? Parce que aujourd'hui encore, là, aujourd'hui, Christelle Lefebvre, une représentante du district de Saint-Élie, elle a fait une entrée Facebook assez importante où elle dit, elle dénonce finalement le manque d'introspection, aucune prise de responsabilité personnelle. Et c'est pas très jojo envers la mairesse. Comment elle est, la mairesse, comme collègue élue?
Ben, c'est-à-dire que, bon, je commenterai pas la partie de Mme Lefebvre, ni de mes autres consoeurs ou confrères au conseil. Moi, j'ai toujours eu, dans le mandat précédent, on s'était quand même attaqué, dans le sens qu'on ça allait pas très bien, elle et moi. Elle était même allée jusqu'à me traiter de menteuse en plein conseil municipal.
Ça, c'est Mme Beaudin?
Oui, on lui a demandé de s'excuser, elle l'a pas fait, mais bon, à un moment donné, il faut avancer, puis il faut passer à autre chose. Alors, quand on est arrivé dans ce mandat-ci, j'ai comme travaillé avec elle, parce que je suis pas une personne rancunière, je suis quelqu'un qui est capable de travailler, mais c'est évident que c'est pas, si vous me demandez si moi je prendrais ce genre de gestion-là, non, je vous dis absolument pas. Par contre, on réussissait à s'asseoir ensemble, à discuter, à échanger, à trouver des moyens de, parce que moi je suis indépendante, je fais pas partie de Sherbrooke Citoyen. Alors on trouvait des moyens de travailler ensemble puis de faire en sorte que ça traverse l'autre côté, comme on dit au conseil municipal. Mais c'est pas toujours comme chaque personne qui est assise autour du conseil, autour de la table du conseil, ben on a chacun nos caractères, on a chacun nos personnalités. Mais mettons que c'est un mandat difficile, c'est mon troisième mandat.
Est-ce que la mairesse entretient des relations conflictuelles avec bien des élus du conseil municipal ou est-ce que vous êtes quelques personnes qui ne faites pas partie de sa gang rapprochée qui vivait ça?
Ben c'est sûr que si vous dites, si vous lui posez la question, elle vous répondra pas qu'elle est en guerre avec personne, là, c'est sûr et certain, mais c'est sûr que les relations sont plus difficiles avec certaines personnes assises autour de la table du conseil, là.
À partir de maintenant, madame, oui. À quoi vous vous attendez? Vous êtes encore une élue, vous êtes conseillère du district de Desrallo, excusez-moi.
De Desrallo, je vais vous corriger.
Oui,
Desrallo. Madame Jasmine, il n'y a aucun problème, tout va bien. Mais écoutez, c'est sûr et certain que ça me fait énormément de peine de perdre mon poste de conseil, de présidente du conseil parce que j'adorais ça. J'ai quelques 40 ans de communication dans le corps, donc je sais comment ramener les gens, puis faire en sorte de travailler avec eux, puis essayer de joindre les deux bouts avec les deux genres de mentalité qu'on a au conseil. Mais bon, faut faire son deuil. Je pourrais pleurer tous les jours pendant une semaine de temps. Ça fera pas en sorte que ça va faire avancer les choses. Alors, évidemment que je reprends un siège de conseillère qui est le rôle le plus important quand tu fais de la politique municipale, c'est tes citoyens et citoyennes. Et ils sont derrière moi et je suis bien contente de ça. Donc, je vais faire continuer à travailler en équipe avec les gens qui voudront bien travailler en équipe. Et bien évidemment, qu'en retrouvant mon droit de parole, ben je pourrai m'exprimer comme je veux, quand je veux et de la façon dont je veux pour faire avancer les dossiers. Mais il faut pas oublier qu'à Sherbrooke, nous sommes majoritaires les indépendants et ça va se faire sentir de plus en plus jusqu'au... n'est-ce pas, aux prochaines élections le 3 novembre 2025. C'est loin.
Ben, parlons-en des prochaines élections. Vous ne serez pas tenté de vous présenter pour le poste de mairesse?
Ben, écoutez, j'avais commencé une réflexion avant les fêtes, avant de partir pour le congé, puis je me disais, faut absolument qu'on trouve un moyen de travailler ensemble, faut faire le point, faut faire une mise à jour, faut que je m'interroge sur mon avenir politique, parce que c'est pas vrai qu'à 62 ans, je vais y laisser ma santé. Il n'y a pas un job qui mérite qu'on y laisse sa santé.
Non.
Alors, je vais commencer par réfléchir à savoir si je me représente pour un quatrième mandat comme conseillère du district de Desrallo. Et ensuite, ben, on verra ce qui arrivera. Comme je disais tout à l'heure, 18 mois en politique, c'est long, mais ça peut être court aussi.
Mais vous l'excluez pas?
Pas du tout.
Alors, c'est possible qu'Évelyne...
Mais je ferai pas un M. Coderre de moi, là.
Non. Mais il est possible que... Ben, est-ce que vous êtes déjà présenté à la mairie de...
Jamais.
Bon.
Non, jamais. Parce que, vous savez, quand on entre en politique, il faut faire ses classes. Hein. Moi, le premier mandat, à peu près, j'ai à peu près rien dit jamais, si ce n'est dans la dernière année où j'ai décidé que j'étais capable de m'exprimer. Parce que faire de la politique, c'est un autre monde. C'est pas un monde normal, donc faut l'apprendre, faut le maîtriser. Alors non, ça m'était jamais, ben c'est-à-dire que ça s'est jamais effleuré l'esprit. Oui, je serais malhonnête de vous dire non, mais pas de façon comme dans le dernier mandat et tout ça, non. Alors on verra.
Mais là le fruit, on dirait qu'il est plus mûr là, on dirait que le fruit il cherche à être cueilli là, madame Berton.
Il cherche. Vous êtes ferme vous, madame Yasmine.
Je sais, on me dit tout le temps ça.
Ça m'a fait plaisir de vous reparler si jamais vous avez besoin.
Eh bien, mon émission est toujours ouverte pour vous, puis on est prêt à vous accueillir si vous voulez nous faire un scoop puis annoncer votre candidature pour le poste de mairesse de Sherbrooke. Là. Ça va bien aller.
Vous êtes drôle. Bonne fin de journée à vous.
Merci beaucoup, Danielle Berthol, et conseillère de ville du district de Desrallo. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci. Au revoir.
C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous laisse avec ma collègue Sophie Durocher et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode sur Cube.